Mesdames, Messieurs, la semaine dernière, nous avons poursuivi l'examen des documents qui attestent le doublement des lieux de culte du suburbium lointain de Rome, un sanctuaire dans la banlieue de plus en plus lointaine que nous sommes allés voir, et un sanctuaire correspondant souvent et des rites correspondants en ville. Nous avons regardé de près la célébration urbaine des féries latines, qui pose des problèmes, mais qui semble en tout cas entrer dans ce schéma. Nous avons constaté qu'elle se faisait vraisemblablement avant les cérémonies albaines, même si les sources ne nous permettent pas d'aller bien loin. Au-delà des détails extrêmement difficiles à reconstituer, nous avons retrouvé donc le même scénario que pour le sacrifice à Dea Dia, avec un début urbain de la fête qui qualifie le célébrant pour les cérémonies albaines et puis la fête elle-même comme une fête romaine célébrée à Rome et ensuite dans les monts albains. À partir de ces exemples, nous avons entrepris une promenade par d'autres sites lointains de l'Ager Romanus. Nous avons visité Osti, Lavinium, Lanuvium, Nemi, Tusculum, Lucus Feronie et le mont Soracte, Falerii et Praeneste. Et à chaque fois, nous avons retrouvé d'une part des actes religieux romains dans le lointain suburbium et l'implantation d'un culte correspondant dans la ville elle-même. Nous avons fini, vous vous rappelez, par le temple de Fortune à Praeneste, où nous n'avons pas beaucoup d'indications, mais où on peut également imaginer qu'au moins des projets de ce type existaient. Vous savez que Praeneste était, à l'époque de Cicéron, relativement, au moins d'après Cicéron, méprisé par l'aristocratie et l'État romain. Et cela a changé, puisque nous avons terminé par une histoire qui est arrivée à l'empereur Tibère, qui voulait confisquer un peu pour son usage privé, en quelque sorte, les sortes, les a fait transporter à Rome. Et puis, pendant le transport, ils ont disparu, et donc l'empereur a pris peur, et il a arrêté cette affaire insu. C'est une anecdote sur le caractère de Tibère, mais cela nous montre qu'il y a cette tendance à considérer les oracles, notamment, comme des oracles romains au service exclusif du pouvoir, comme c'est toujours l'habitude romaine. Nous avons ainsi pu vérifier la déduction faite précédemment que l'Ager Romanus proprement dit, c'est-à-dire l'espace suburbain de Rome, était la somme de tous les lieux de culte, continus ou non, dans lesquels des magistrats romains ou des prêtres effectuaient des actes souverains, comme l'étaient les rites religieux publics. Allons maintenant un peu plus loin pour voir si ce principe peut s'appliquer encore à d'autres lieux que nous n'avons pas encore cités. L'exemple de Vertumnus Vortumnus, assimilé par certains à Voltumna, le grand dieu de Volsinii Orvieto et de la Ligue étrusque du passé, aurait pu nous offrir une belle attestation de l'annexion religieuse d'un lieu de culte situé à environ 82 milles de Rome, c'est-à-dire environ 120 kilomètres. Mais notre scepticisme nous a poussé à éliminer ce cas, puisque l'assimilation de ces deux dieux est douteuse. Le Vortumnus honoré par le triomphateur Marcus Fulvius Flaccus, après son triomphe des Volsiniensibus sur les Volsiniens en 264 avant notre ère, n'est pas forcément le Voltumna de Volsini. Tite-Live, par exemple, n'emploie jamais à propos de Volsini le nom Vortumnus ou Vertumnus, toujours Voltumna. D'ailleurs, même si nous considérions que le Vortumnus qui reçut le temple votif de Flaccus sur l'Aventin était le Voltumna de Volsini et de la Ligue étrusque, nous ne retrouverions pas le schéma que nous avons ébauché pour les autres lieux de culte suburbains. Il n'existe en effet aucune tradition sur des actes religieux romains à Volsinii, Orvieto. Ce serait d'ailleurs difficile puisque la ville a été détruite comme Veii et Falerii. Il s'agirait dans ce cas de la captation pure et simple d'une divinité honorée depuis lors uniquement à Rome. On peut toujours spéculer et on pourrait admettre que la nouvelle Volsinii, c'est-à-dire Bolsena, qui est à 20 km vers le lac de Bolsena, a récupéré cette fête. Il y a une petite lueur dans ce sens, dans la fameuse fête que sous le Haut Empire, à partir de Marc Aurèle environ, les régions Tuscia et Umbria célèbrent à Volsini, Bolsena cette fois-ci, et Spello, Hispellum, dont nous avons parlé, et qui sont comme les fêtes de ces régions, de l'Italie, que nous connaissons par une belle inscription trouvée dans ce sanctuaire ombrien de Spello que je vous ai montré. On pourrait dire que c'est la captation par une colonie romaine encore de cette fête étrusque. Mais nous n'avons pas la moindre indication qu'on honorait Voltumna dans ces jeux et dans cette fête. C'est que le culte impérial qui est en cause. Bon, nous n'utiliserons donc pas cet exemple. Il y en a d'autres. Essayons de voir encore plus loin jusqu'où va finalement cet ager romanus, d'après tout ce que nous avons dit. Pour bien comprendre le fonctionnement de ces cultes situés sur l'ager romanus, il faut revenir au droit sacré romain. Célébrer un culte à l'avinium ou l'annuvium signifie que les célébrants romains vouent, dédient, offrent selon le rite romain, urbain, des victimes sacrificielles, des édifices, des objets. Il ne s'agit pas simplement de célébrer un culte local suivant les modalités de l'endroit, mais de vénérer une divinité romaine publiquement, comme si on était à Rome, et que pour cela les Romains aient adopté une particularité rituelle locale ou non. Alors, c'était tout à fait possible. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un magistrat romain qui, comme un de nos ministres ou le président de la République, entrerait dans une église quelque part pour y célébrer une grand-messe au nom de la République. Ce n'est pas du tout cela. Il ne peut pas faire cela. S'il est autorisé, eh bien, il peut le faire à titre privé, mais pour célébrer cela comme un acte d'État, il faut d'autres conditions. Nous ne sommes pas dans une religion universelle et chaque système religieux par cité est autonome, il faut bien le comprendre. Pour qu'une divinité et un culte soient romains suivant le droit sacré, selon le droit sacré, il faut que le sol en question autorise ces actes. En d'autres termes, ce comportement implique que le sol des cités soumises et qui sont situées sur l'ager romanus soit assimilé au territoire de Rome, ou bien, comme nous l'avons déjà dit, que cette portion de terrain possède de façon régulière ou exceptionnelle les vertus juridiques du sol strictement romain. Et ceci n'allait pas de soi. Il ne suffisait pas qu'un magistrat agisse religieusement pour que le sol où il effectue un rite public se transforme ipso facto en territoire romain. C'est plutôt le contraire. Les actes du magistrat n'étaient valables en droit sacré romain que s'ils étaient accomplis sur l'ager romanus. Ce territoire s'est peu à peu étendu jusqu'à englober toute l'Italie jusqu'au Rubicon, jusqu'au Pô en gros. Dans un premier temps, cette qualité était attachée à l'ager romanus suburbain proprement dit et aux communautés de citoyens romains. Une définition des municipalia sacra que nous avons déjà vue, qui est donnée par Festus, nous intéresse ici. Festus écrit qu'on appelle rite des collectivités civiques, municipalia sacra, ceux que celles-ci ont eu depuis le début, avant de recevoir la citoyenneté romaine. Les pontifes ont voulu qu'ils les respectent et qu'ils les effectuent de la manière qu'ils ont eu l'habitude de les célébrer depuis l'Antiquité. Cette définition nous apprend que les pontifes de Rome, il s'agit de toute évidence de cela, donnaient un avis dans cet arrêt, dans ce décret, dans cette réponse, sur les cultes de ces collectivités, situées forcément en Italie. Ainsi que Georg Fissova l'a vu, cet avis doit signifier que le terrain sur lequel se trouvaient ces municipes était celui du peuple romain, c'est une terre conquise, nous sommes en ager romanus, car sinon les pontifes n'auraient même pas pu se prononcer. Il s'agissait de donner aux actes de ces citoyens romains un fondement juridique. Que devaient-ils faire, notamment si leur communauté succédée n'était pas créée de toutes pièces ? À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si leur communauté succédait à une cité étrangère qui avait des obligations religieuses qui remontaient à son statut antérieur. Pensez à la transformation, mais c'est bien sûr plus tard, de Pompéi, d'une cité osque, en colonie romaine, en 80 environ avant notre ère. Qu'est-ce qui se passe avec les obligations religieuses antérieures? Est-ce qu'on les supprime? Est-ce qu'on met que du romain? Ou qu'est-ce qu'on fait? Et les pontifes décidèrent, sans doute en réponse à une question du Sénat, j'imagine, que les cultes antérieurs devaient être maintenus. Ces obligations existent toujours. Vous rappelez que les Romains ont toujours un grand respect aussi devant les divinités d'un endroit, même s'ils ne les connaissent pas, le genius loci, le génie qui agit dans ce lieu, qui protège ce lieu, etc. Et souvent, ils s'adressent à lui avec ce nom pittoresque, soit Dieu, soit déesse. Donc Dieu ou déesse, nous ne connaissons même pas ton nom ni ton sexe, nous t'adressons nos prières quand même. Et les Romains sont très prudents de ce point de vue dans leur polythéisme, puisqu'il y a des dieux partout. Et donc, quand ils sont dans une communauté plus ancienne, qu'ils romanisent, il n'est pas question de jeter tout ce qui, dans les obligations religieuses, existait déjà sur place. Ils assumaient ces devoirs à leur tour. Ce petit extrait du droit sacré romain nous livre donc un témoignage sur l'extension du territoire romain, d'abord aux communautés de citoyens installées de ci de là en Italie, avant de l'être plus globalement. La même règle a dû s'appliquer aux decemvirs ou quindecemvirs sacris faciundis, c'est-à-dire les 10 hommes ou les 15 hommes chargés de la consultation et de l'application des oracles sibyllins, un des collèges sacerdotaux romains. D'après plusieurs documents, ce collège de prêtres romains a été chargé, entre autres, de veiller au respect des oracles, et notamment, nous le savons, par l'oracle de 205 avant notre ère, qui enjoignait à tous les Romains de vénérer la grande mère, Cybèle. Les témoignages montrent qu'ils effectuaient des contrôles non seulement en Italie, à Cum, par exemple, mais aussi à Lyon, et ceci au moins jusqu'au IIIe siècle de notre ère. Voyons ça d'un peu plus près. Le document de Cum est passionnant pour notre enquête. Il s'agit d'un dossier comprenant deux lettres qui sont, vous voyez, les 15 quindecemviris sacris faciundis. C'est là, le début de la deuxième lettre. Donc il s'agit d'un dossier comprenant deux lettres dont la première informe les quindecemvirs de Rome, des rites sacrés, donc les quindecemvirs des rites sacrés, d'une élection qui a eu lieu à Cum, dans la région de Naples. Lisons le premier document. Le 1er juin, je traduis, sous le consulat de Marcus Magrius Bassus et de Lucius Ragonius Quintianus, c'est-à-dire l'année 289 après notre ère, à Cum, dans le temple du divin Vespasien, dans l'ordo des décurions, l'ordre des décurios, c'est le sénat local. Donc, que l'ordo des décurions, que les préteurs Marcus Malonius Undanus et Quintus Claudius Aquilianus avaient réunis, étaient présents Celius Panicus, Curtius Votivus et Considius Felicianus. Voilà la commission, en gros, qui a statué. Sur une motion présentée par les préteurs, c'est les préteurs de Cum, tout ça c'est des vieilles communautés qui ont des magistratures un peu anciennes, présentée par les préteurs à propos de la nomination d'un prêtre de la mère, déesse de Baï, à la place du prêtre Restitutus décédé, défunt, il a été décidé à l'unanimité de nommer prêtre Licinius Secundus, placuit universis, unanimité. Alors le titre de la déesse et du prêtre un peu spécial, Matris Deae Baianae. En fait, c'est un lapsus de celui qui a rédigé le protocole de cette réunion, ou de la lettre, ou de l'inscription, c'est Matris Deum Baianae, la mère de Dieu de Baï. C'est là qu'était, dans cette localité voisine, qu'était le temple. Petit détail. À cette lettre fait suite la copie d'une seconde lettre émanant du collège sacerdotal de Rome, Je continue de lire. Les quindecemvirs chargés des rites aux préteurs et aux magistrats de Cume saluent. Après avoir pris connaissance par votre lettre que vous aviez élu Licinius Secundus, prêtre de la mère des dieux, et vous voyez que là, ils ne font pas l'erreur, Matris Deum, à la place du défunt Claudius Restitutus, nous l'avons autorisé, selon votre volonté, à porter le bracelet et la couronne, à condition que ce soit dans les limites de votre colonie. Nous vous souhaitons de bien vous porter, Pontius Cavius Maximus, j'ai signé en tant que pro-magister, vice-président du collège, le 17 août, sous les consuls suffects Marcus Umbrius Primus et Titus Flavius Coelianus. Cette lettre apporte la preuve que les obligations religieuses romaines dérivant de l'oracle de 205 avant notre ère, qui avait conduit à l'introduction du culte de la Mater Magna, de la grande mère des dieux Cybèle, à Rome, eh bien, concernaient, et dont les quindecemvirs avaient pour mission aussi de contrôler l'application, concernaient toutes les cités romaines, où qu'elles se trouvent, les colonies notamment. D'une dizaine d'années plus tôt, les désastres de la Deuxième Guerre punique avaient conduit à l'imposition d'un vœu à tous les citoyens romains. Même procédure. Il s'agissait du célèbre Ver Sacrum, littéralement le printemps sacré, un rite qui consistait à consacrer et à sacrifier aux dieux tous les animaux qui naîtraient au printemps suivant. L'obligation créée par l'oracle de 205 s'inscrit dans la même logique. L'acte de piété devait dépasser les citoyens romains vivant dans la seule ville de Rome. Il devait concerner tous les municipes et toutes les colonies romaines. Toutes ces communautés romaines devaient désormais vénérer publiquement la Grande Mère et organiser un culte de la Grande Mère, et qui était en fait un culte de la ville de Rome et pas de leur colonie, où il était les deux, si vous voulez. Et encore en 289, donc plus de quatre siècles plus tard, cette obligation était d'actualité, comme les deux lettres que j'ai lues le prouvent. Et les quindecemvirs, donc, chargés des livres sibyllins et de l'application des oracles qui en étaient tirés, contrôlaient toujours l'application de l'oracle, en l'occurrence l'élection et l'investiture définitive des prêtres choisis par les communautés en question et qu'ils autorisaient à porter les insignes du sacerdoce de Cybèle, cette espèce de bracelet et une couronne. Les cités devaient les informer de tous les événements importants relatifs à ce culte et les quindecemvirs autorisaient apparemment tous ces changements. Un autre texte de Lyon qui est relatif à un taurobol, c'est-à-dire un sacrifice de taureau célébré en 160 de notre ère pour le salut de l'empereur, mentionne que le prêtre de la Grande Mère de Lyon a été doté du bracelet et de la couronne par les quindecemvirs. Donc c'est l'application de ce même principe. À Die, en Provence, et à Bénévent, les prêtres en Italie, d'autres prêtres de la Grande Mère sont dits quindecemviro, simplement, pour la même raison. Leur élection a été dûment approuvée par les responsables romains du culte. Et ça n'existe, bien entendu, pour aucun autre culte local. Ce n'est que celui-là, qui est très spécifique. Pour ce qui nous intéresse, ces beaux documents de la vie religieuse publique, qui font voir toute la paperasse qui pouvait exister non seulement dans l'administration romaine, mais même dans l'administration religieuse des Romains. Ces documents démontrent que le culte public de Cybèle dans les colonies de Cume, Bénévent et Die représente un acte religieux romain, urbain, dans une cité située en Italie ou en province, en Gaule lyonnaise ou en Gaule narbonnaise. C'est pour cette raison que les quindecemvirs peuvent intervenir dans ces cités. C'est de la même manière que les pontifes pouvaient être consultés par les magistrats romains ou le Sénat sur le problème des obligations religieuses des nouvelles communautés romaines créées en Italie ou ailleurs. Il existe d'autres témoignages de cette façon plus large de concevoir l'espace romain, et qui, une fois encore, sont en grande partie liés aux activités publiques religieuses. Après la guerre sociale, qui a eu lieu entre 90 et 88 avant notre ère, et la loi Plautia Papiria, qui donnait la citoyenneté à tous les hommes libres d'Italie, toutes les communautés d'Italie étaient composées maintenant de citoyens romains, et leur territoire additionné composait le territoire romain au sens large. L'Ager Romanus correspondait désormais à toute l'Italie jusqu'au Pô et bientôt jusqu'aux Alpes. Nous savons toutefois que même avant cette date, il existait des règlements à propos de la légalité de certaines décisions qui étendaient ponctuellement dans cette zone et au-delà l'Ager Romanus. Ainsi, en 210, avant notre ère, les sénateurs romains décidèrent-ils qu'un dictateur romain ne pouvait pas être nommé à l'extérieur du territoire romain et ils constataient que celui-ci était limité à l'Italie. Un dictateur, je le rappelle, était un magistrat qui avait les pleins pouvoirs dans une période d'urgence pour accomplir une tâche précise et quitte son pouvoir normalement après 6 mois. La même procédure était adoptée pour les actes religieux comme les dédicaces. Les consuls devaient normalement se faire inaugurer au début de leur charge à Rome même, à l'intérieur du pomerium, car seuls les actes religieux célébrés à Rome et sur son territoire, au Monte Cavo ou à Lavinium, étaient aptes à les investir de leur charge, suivant les principes du droit sacré. Dans un premier temps, les fonctions des prêtres romains étaient également limitées à l'Italie. Nous connaissons quelques conflits qui portaient sur la demande faite par des grands pontifes ou des flamines de se rendre en province pour y exercer des commandements, telle l'histoire du flamine de Quirinus, Quintus Fabius Pictor, et du grand pontife Publius Licinius en 189 avant notre ère. Avant le départ des préteurs pour leur province, des gouverneurs avec rang de prêteurs, lisons-nous, une contestation éclata entre Publius Licinius, le grand pontife, et Quintus Fabius Pictor, le flamine de Quirinus, analogue à celui qui avait éclaté autrefois entre Publius Metellus et Postumius Albinus, en 241 avant notre ère. Celui-ci, jadis, alors qu'il était consul, s'apprêtait à partir avec son collègue Gaius Lutatius pour aller en Sicile commander la flotte. Nous sommes à la fin de la Première Guerre punique. Et Metellus, le grand pontife, l'avait retenu à Rome pour assurer le culte. Il était flamine de Jupiter. Le prêteur Fabius fut alors empêché de partir pour la Sardaigne par Publius Licinius. Ça, c'est l'autre histoire. Au Sénat, comme devant le peuple, le débat fut violent. On fit jouer son autorité de part et d'autre. On prit des gages, on infligea des amendes, on fit intervenir les tribuns de la plèbe, on en appela au peuple, le scrupule religieux à la fin l'emporta, l'obéissance fut imposée aux flamines, mais l'amende fut annulée par un vote du peuple. Donc on coupe, comme nous disons, la poire en deux, ce qui peut paraître bizarre, puisque théoriquement les prêtres ne peuvent pas quitter Rome, mais on invoque le précédent du flamine de Quirinus qui était obligé de rester à Rome. Mais c'est justement là qu'il y a le problème, parce que dans un cas, il s'agissait d'un flamine de Jupiter qui ne pouvait en aucun cas quitter Rome, alors que pour les autres flamines, la règle a été plus légère, si vous voulez. Il n'était pas forcément par les règles, obligé à rester à Rome, comme le flamine de Jupiter. Et c'est pour cela qu'on a donné, d'une certaine mesure, raison au grand pontife, puisqu'il y tenait, mais on n'a pas imposé une amende sur le flamine de Quirinus. Pour le grand pontife, cette coutume dura lui-même. Pour le grand pontife lui-même, cette coutume dura jusqu'en 131 avant notre ère, car cette année-là, le grand pontife partit en province, commanda une armée, fut vaincu au combat et tué en bataille. Encore sous Tibère, un flamine de Jupiter qui voulut faire carrière et quitter l'Italie pour assumer le gouvernement de la province d'Asie fut débouté de sa demande. Pendant qu'on s'occupait de religion, raconte Tacite, le prince, il s'agit de Tibère, fit connaître sa réponse, différée jusqu'alors sur l'affaire de Servius Maluginensis, flamine de Jupiter. il eut un décret des pontifes qui autorisait le flamine de ce dieu à s'absenter plus de 2 nuits pour cause de maladie et avec le consentement du grand pontife, pourvu que ce ne fût point dans le temps des sacrifices publics, ni plus de 2 fois par an. Donc vous voyez que c'est extrêmement rigoureux. Ce règlement établi sous Auguste, c'est en 12 quand il prend un nouveau flamine de Jupiter, ce nouveau règlement d'Auguste prouvait que les flamines de Jupiter ne pouvaient être absents une année entière ni gouverner des provinces. On citait même l'exemple d'un grand pontife, Lucius Metellus, qui avait retenu à Rome le flamine Aulus Postumius, c'est celui dont on vient de parler. Pareillement, il ne pouvait pas être question de dédicace, comme je l'ai déjà dit, selon le droit sacré romain hors d'Italie, dans les provinces. Dans sa correspondance avec Pline le Jeune, l'empereur Trajan, vers les années 100-105 de notre ère, eut à statuer sur une situation, ou c'est même un peu plus tard, eut à statuer sur une situation de ce type. La ville de Nicomédie construisait un nouveau forum à côté de l'ancien. Les travaux nécessitaient le démontage d'un ancien temple de Cybèle, encore la grande mère, et sa reconstruction ailleurs. C'était facile, écrit Pline, mais il vérifie si aucune règle religieuse ne l'interdit. Il a dû avoir des scrupules parce que justement dans les colonies romaines, le temple de la Mater Magna est quelque chose de très précis, de très spécifique, parce que là, il dit où ça va faire des embrouilles avec les Queen des Semvires et tout ça. Et donc, pour être sûr, il écrit à Trajan. Trajan lui répond que le sol d'une cité pérégrine n'est pas juridiquement capable de recevoir une dédicace comme celle qui se fait selon notre droit, selon le droit romain. Et il décide que le gouverneur Pline n'a pas à vérifier la validité de la consécration d'un temple de cette cité étrangère, qui n'est pas une colonie romaine, qui est étrangère. Le sol provincial n'appartenait en effet pas au territoire romain qui est limité à l'Italie, et ne permettait donc pas de recevoir une dédicace. Donc voilà un exemple qui montre les problèmes qui peuvent se poser. Comme toutefois, il était difficile pour les gouverneurs romains de gouverner une province sans faire de temps à autre des dédicaces, et même au nom de Rome, les juristes trouvèrent imaginaire une solution en créant une fiction. Selon le manuel du juriste Gaius, qui date du IIe siècle de notre ère, on considéra que tout ce qui, dans les provinces, avait été consacré d'après l'autorité du peuple romain n'était pas sacré, mais était néanmoins tenu pour sacré. Le texte de Gaius est celui-ci. « La plupart estiment, cependant, que dans un sol provincial, un lieu ne peut devenir religieux, parce que dans ce sol, c'est le peuple romain ou l'empereur qui est propriétaire et que nous sommes censés n'y avoir que la possession ou l'usufruit. Notons du moins que même s'il n'est pas religieux, il est tenu pour tel. » C'est un premier règlement qui concerne le statut religiosus d'un lieu, c'est-à-dire propre à recevoir des sépultures. C'est ça le sens juridique de religieux hein, dans ces textes. Et donc, on ne peut pas avoir, on ne peut pas s'approprier ces terrains puisqu'ils sont soit inaliénables, soit c'est l'empereur qui le possède. Donc, on ne peut rien en faire. Mais comme ça se fait malgré tout, les provinces sont certes propriété du peuple romain, mais il arrive même que les gens meurent dans ces provinces et il faut bien qu'ils soient enterrés. Donc, on fait comme s'il était religiosus, c'est-à-dire capable de recevoir une tombe légalement installée. De même, et ça, c'est ça qui nous concerne plus directement, ce qui, dans les provinces, a été consacré sans l'autorité du peuple romain n'est pas à proprement parler sacré, mais est tenu pour tel, donc une fiction. C'est quasi sacré. Sacré, c'est ce qui est consacré légalement par des représentants du peuple romain. Donc les juristes ont créé une fiction pour résoudre les problèmes qui se dressaient devant l'action publique conforme aux traditions. Sans changer la tradition, ils font en somme comme s'ils se trouvaient en Italie. Ils créent une fiction. Et si vous vous occupez d'épigraphie provinciale, vous verrez que dans certains cas, des cités font dédier leur temple par le gouverneur, qui est un magistrat romain à Imperium, et qui donc a la capacité, de par le peuple romain, de dédier, de faire des dédicaces valables en droit romain. Quand c'est dans une cité romaine, c'est une double garantie. C'est une fiction, normalement il ne devrait pas pouvoir faire cette consécration, puisqu'on n'est pas en Italie, mais il fait comme si, et c'est renforcé par le fait qu'il a en plus l'imperium. Et il y a même des cas où dans une colonie, un gouverneur qui est également à Rome, membre du collège sacerdotal des Quines des Semvires, dédie le temple de la Mater Magna. Là, vous voyez, c'est vraiment, on prend toutes les garanties pour qu'on ne conteste pas les consécrations. Parce que les temples consacrés, ça vaut beaucoup d'argent et ce serait bien embêtant de devoir les détruire. Nous trouvons ici une situation très proche de l'évolution qui concernait la prise des hospices, ou plutôt le renouvellement des hospices, après une défaite ou au début d'un nouveau commandement. Les hospices, c'est l'observation du ciel pour obtenir l'approbation de Jupiter, notamment pour la décision ou pour la charge qu'on va prendre. La coutume voulait en effet que, s'il arrivait que des magistrats, consuls, préteurs, qui étaient sortis du camp et mal combattus, ils retournent pour prendre à nouveau les hospices ou encore pour installer la tente d'observation, appelée tabernaculum, tabernacle, si au début la tente avait été installée de manière incorrecte, vitio, de manière viciée. L'emplacement de la tente d'observation était en effet choisi pour prendre les hospices. Ceci fut toutefois observé par les généraux romains tant qu'ils se battaient en Italie. Et afin qu'aucun général ni aucune armée ne soit trop longtemps absent, s'il devait retourner de loin à Rome pour renouveler les hospices, on décida que dans la province où l'on faisait la guerre, un endroit dans un territoire qui avait été pris fut rendu romain. C'est auprès de ce terrain que le général retournait s'il convenait de renouveler les hospices. Il s'agit d'un texte tardif, d'un commentateur qui n'est pas sans poser des problèmes, et c'est un problème en lui-même compliqué. Mais vous voyez que la logique, la démarche intellectuelle des juristes, si nous pouvons nous fier à ce texte, est la même. Pour résoudre la contradiction entre les obligations rituelles et les besoins de la guerre, ils ont imaginé une fiction. Fidèles, comme toujours, au principe que rien ne devait être changé dans les règles instituées par les ancêtres, ils ont maintenu pour le général qui avait été battu ou avait mal installé son dispositif d'observation hospiciale l'obligation de renouveler ses hospices. Les auspicia, donc, étaient les signes qui les habilitaient non seulement à agir après l'observation de la manière dont mangeaient des poulets divinatoires qu'ils emportaient, mais plus généralement le droit de consulter Jupiter à propos des actes publics qu'ils entreprenaient. La prise d'hospice était donc un élément de leur pouvoir. Mais comme cet acte ne pouvait être réalisé que sur l'Ager Romanus, ou dans un lieu inauguré appelé Templum, ou Tabernacle, ici, tente d'observation, les Romains ont décidé de rendre aux Romains un bout de terrain pris par l'armée romaine dans une province donnée. Manifestement, si le territoire romain, dans sa continuité, ne pouvait pas s'étendre en province, rien n'empêchait qu'un territoire donné fût rendu romain, fût annexé, même temporairement, au territoire romain. Nous sommes en présence du principe qui permettait à chaque cité de posséder des bouts de territoire de ci de là, même en province, comme la cité de Naples le faisait en Crète. Et en outre, si les hospices avaient été viciés par les infractions ou par des défaites, il convenait de les renouveler sur l'Ager Romanus, en principe, voire à Rome même, où l'imperium, le droit de commandement supérieur qui impliquait le droit de la prise d'hospice public, pouvait être confirmé par ce qu'on appelait la loi curiate. Il s'agissait d'un vote par acclamation des représentants des 30 antiques curies du peuple romain qui ne jouaient plus un rôle actif dans la vie politique, mais dont le geste formel confirmait l'attribution de l'imperium, du droit de commandement suprême, en vertu d'une élection par l'Assemblée du peuple. Le vote d'une loi curiate était également nécessaire pour valider le senatus consulte sur l'attribution des provinces consulaires, comme l'atteste un scandale de l'année 54 avant notre ère, quand les candidats à l'élection consulaire s'arrangèrent avec les consuls en exercice pour que les témoins affirment qu'ils disposaient de cette loi, alors que le Senatus consulte lui-même n'avait pas été voté. Quelques mois plus tard, quelques mois plus tard, Appius Claudius, qui avait été consul en 54 et se disposait à quitter Rome pour gouverner la province de Cilicie, déclarait publiquement qu'il se passerait de la loi curiate s'il ne pouvait la faire voter, puisque le vote d'une loi curiate par le consul était nécessaire, mais pas indispensable. Legem quae curiatam consuli ferre, opus esse necesse non esse. Si nous nous fions à tous ces scandales, qui sont parfois relativement difficiles à comprendre, l'importance de cette instance résidait à cette date dans la possibilité d'invalidation des pouvoirs que ce vote formel offrait dans le combat politique. Et vous comprenez donc aussi les précautions qu'on doit prendre quand on a des problèmes et qu'on est loin de Rome. Mais cette période agitée n'est sans doute pas propice pour observer le fonctionnement régulier de l'État. Il ne s'agit toutefois pas d'une invention due au contexte de la guerre civile larvée qui régnait déjà à Rome en 54. La pratique de pouvoir renouveler ses auspices hors de l'ager Romanus et peut-être sans la légitimation de la loi curiate est plus ancienne. Elle n'est plus systématique à partir d'un certain moment. Elle est déjà attestée au cours de la Deuxième Guerre punique. Alors que Flaminius rencontra encore des difficultés, on prorogea en 209 le commandement de Scipion en Espagne sans l'obliger de revenir à Rome. Mais il est vrai dans ce cas que le jeune Scipion, même s'il n'avait pas encore géré le consulat ou la préture, avait été investi par de son imperium et de ses auspices à Rome et par un vote de l'assemblée centuriate, donc l'assemblée qui conférait l'imperium. Il était ensuite prorogé, sans doute chaque année, sans revenir, comme les autres pro-magistrats, par un décret du Sénat d'année en année. Donc vous voyez que ça existait déjà avant, et, à cette époque, et sans doute déjà avant, il y avait des histoires de ce type. Mais vous avez vu les problèmes qu'a eu Flaminius, vous les connaissez, il y a eu une grosse défaite parce qu'il n'a pas fait attention à toutes ces affaires. Une affirmation de l'historien Cassius Dion atteste cette même procédure, en tout cas la prudence devant cette procédure, en 48 avant notre ère, et dessine également ses limites. L'affaire se passe à Thessalonique, donc hors d'Italie, dans le camp de Pompée pendant la guerre civile contre César. Pompée, qui s'était enfui de Rome, avait rendu public, raconte Dion, un terrain sur lequel il avait fait installer par les augures qui l'accompagnaient un templum qui permettait l'observation des poulets divinatoires. Ce dispositif lui aurait permis, d'après Cassius Dion, de faire voter la loi curiate qui conférait au magistrat supérieur l'imperium, le droit de commander. Car son camp réunissait non seulement une partie du peuple et du Sénat, mais aussi les consuls capables d'organiser les élections. Lisons la suite du texte. « Mais, pour la bonne raison que les consuls n'avaient pas proposé de loi curiate, ils employèrent les mêmes magistrats qu'auparavant, se contentant de changer leur dénomination, appelant les uns proconsuls, les autres propréteurs ou proquesteurs. » Donc, Cassius Dion souligne que Pompée ne se servit pas de l'existence d'un templum pour élire et investir de nouveaux magistrats, de nouveaux consuls et préteurs en l'occurrence, mais se contentait de se servir des magistrats de l'année précédente en prorogeant leur pouvoir, sans doute par un senatus consulte voté par les quelques 200 sénateurs qui l'accompagnaient dans sa fuite, ce qui était conforme aux traditions, puisqu'un magistrat imperium militaire qui ne revenait pas à Rome et qui ne franchissait pas le pomerium, cette limite juridique dont nous avons tant parlé, conservait cet imperium indéfiniment tant que son successeur n'était pas arrivé dans la province qu'il détenait. Pompée était proconsul et les consuls préteurs ou questeurs de l'année précédente devinrent donc ainsi des proconsuls, des proprétaires, des proquesteurs. La décision de Pompée révèle toutefois Donc, d'une part, qu'on peut envisager, comme tout ce qui a précédé, de rendre romain un territoire donné pour prendre les auspices, investir, tout ce que vous voulez. Mais il montre aussi qu'il existait des limites dans l'action de qui veut respecter de façon rigide les traditions. Dion interprète de cette manière la décision des Pompéiens. Je cite, « Il se souciait en effet tout particulièrement, je pense, des règles ancestrales, eux qui avaient pris les armes contre leur patrie. En ce début des guerres civiles, la légalité absolue des pouvoirs des deux adversaires, ou du moins la volonté affichée de respecter à la lettre les règles ancestrales, sont des soucis compréhensibles. Ces décisions révèlent que le vote d'une loi curiate pour investir des magistrats supérieurs était donc indispensable pour que le pouvoir des magistrats de Rome soit légitime. C'est pour cette raison que les consuls qui étaient en Thessalonique ne présentèrent pas de loi curiate, alors qu'ils auraient pu le faire, puisqu'ils avaient tout le dispositif pour consulter Jupiter. Celle-ci ne pouvait manifestement être votée qu'à Rome, et il n'y avait jamais eu de décision contre cela. On pouvait proroger des pouvoirs ou continuer dans l'imperium qu'on procédait, mais pas confier un imperium totalement nouveau. En revanche, il était tout à fait possible de confier une province à un magistrat romain en fonction, c'est-à-dire un consul ou un préteur qui s'était enfui de Rome ou qui avait quitté de Rome en cours de charge par un senatus consulte, pour en faire un pro-magistrat. Et apparemment, on n'avait pas besoin d'une loi curiate pour être investi légalement de ce pouvoir, ainsi que Appius Claudius le proclamait en 54. La loi curiate était une vénérable institution qui était entrée en conflit avec la nécessité de proroger les pouvoirs des consuls et des proconsuls engagés au loin dans une guerre. Aussi dut-on décider, sans doute déjà à l'époque de la Deuxième Guerre punique, que pour cette procédure de la loi curiate, en fait, ou la prorogation des pouvoirs, c'est de cela qu'il s'agit, un vote populaire ou un senatus consulte suffisait, le cas de Scipion, ou alors la prorogation des pouvoirs, tels que, par exemple, l'affaire de Pompée l'atteste. C'était déjà plus problématique dans le cas d'Appius Claudius, puisqu'il était à Rome et qu'il aurait pu dû prendre la loi curiate sur son imperium. Mais il s'appuyait sur le fait que ça se faisait souvent sans cette loi curiate, donc lui s'en dispensait aussi. C'était bien, mais pas nécessaire, comme il dit. Bien. Ce que le texte nous apprend également pour notre enquête, c'est que l'installation d'un templum augural en terre étrangère était apparemment devenue la règle dans les armées de l'Empire. Cet espace délimité, orienté, installé après prise d'auspices, permettait de prendre les auspices et même de renouveler l'imperium et les auspices du général. Nous constatons que ces pratiques sont conformes à la notion d'ager publicus que nous avons rencontrée lors de l'examen des lieux de culte romains dans l'espace suburbain. Ici, c'est par une fiction juridique qu'un terrain quelconque est transformé en portion de l'ager romanus, du territoire romain, pour rendre possibles les procédures de gouvernement. Ce templum, cet espace, permettait de prendre les auspices et, comme je disais, et ces procédures de gouvernement. La procédure est même anticipée dans l'histoire de Tite-Live, puisqu'il mentionne déjà cette pratique pour l'année 461 avant notre ère, ce qui est peut-être un peu prématuré. La rumeur disait alors que les augures auraient installé près du lac Régil, c'est-à-dire à plus de 8 milles de Rome, un lieu inauguré, c'est-à-dire un templum, pour prendre les auspices et les décisions publiques. Ils auraient donc créé, déjà à cette époque, un bout d'ager romanus fictif à cette distance de Rome, puisqu'à l'époque, nous ne sommes pas encore à cet endroit sur l'ager romanus. Nous constatons en tout cas que ces pratiques sont conformes toutes à la notion d'ager publicus que nous avons rencontrée lors de l'examen des lieux de culte public dans l'espace suburbain. Par fiction juridique, un territoire quelconque, proche ou non, situé en Italie ou non, est transformé en portion de l'ager romanus pour rendre possible les actes religieux qui ne peuvent en fait se faire que sur l'ager romanus et sont des actes souverains de la ville de Rome. Pour étayer encore mieux cette observation, nous pouvons maintenant prendre en considération des lieux de culte situés beaucoup plus loin, en province justement, et qui ne sont pas des colonies ou un camp de l'armée romaine en marche. Le premier est un temple situé en Sicile, sur le mont Eryx, c'est le temple de Vénus Ericine, Vénus du mont Eryx. Les Romains considéraient que la déesse Vénus installée dans le temple du mont Eryx s'était montrée favorable aux Romains au cours de la première guerre punique. Pendant la deuxième guerre punique, ce soutien se poursuivit au point que la déesse, que vous voyez même avec son temple sur cette monnaie, n'est-ce pas, cette espèce de forteresse que vous avez vue à l'instant, elle continue de soutenir les Romains au point qu'elle reçut même en 215 avant notre ère, en pleine guerre, donc un temple au Capitole de Rome. Et le temple du mont Eryx n'était pas seulement pourvu d'une garnison romaine dès 249 avant notre ère, donc dès après la guerre punique, mais il reçut aussi des honneurs. Voilà le texte sur le temple du Capitole. Il reçut aussi des honneurs, car désormais, quand un consul ou un général se rendait en Sicile, il se rendait généralement d'abord au mont Eryx pour y sacrifier. Autrement dit, nous retrouvons le même comportement que nous avons observé dans l'espace suburbain. Le temple du mont Eryx devenait comme une partie du territoire romain, et il appartenait désormais aux obligations religieuses du peuple romain, dit sacrifié à chaque fois qu'il y avait une nouvelle présence, un changement dans l'autorité romaine en Sicile. Il y a quelques années, quand je commençais à travailler sur ce sujet, j'ai considéré que le temple du mont Eryx était désormais autonome, à partir de la fin du IIe siècle, comme le seront certains lieux de culte célèbres, tels le temple de Diane Tifatine, nous avons vu la dernière fois le bois sacré de Féronia et sous l'Empire le bois sacré d'Anguitia dans le pays Mars, en Italie centrale, sur le lac Fucin. Mais je me rends aux arguments de Beatrice Litz qui, dans une thèse de lauréat soutenue à l'École normale supérieure de Pise, attire l'attention sur le fait que, tout en étant situé dans une province et soumis à la juridiction d'un questeur, romain, le temple du mont Eryx a été attribué à la cité voisine de Ségeste, Ségeste en Sicile, que vous avez peut-être visité. Cette dépendance de la cité de Ségeste n'empêchait pas que le temple soit largement autonome, possède un riche patrimoine, notamment, vous avez vu le texte tout à l'heure, des dépendants et des dépendantes serviles, les Vénérii, les esclaves de Vénus, qui ont beaucoup fait fantasmer les historiens, surtout quand ils étaient de sexe féminin. Mais ce n'est pas notre sujet. Le point n'est pas seulement les modernes, mais même dans l'Antiquité, les pères de l'Église, entre autres. Le point qui nous intéresse ici n'est pas cette autonomie plus ou moins grande. Nous avons vu que la déesse reçut un temple à Rome, au Capitole, à côté même du temple de Jupiter. Et c'est devant ce temple que désormais se célébraient les libations des Vinalia de printemps, en avril, qui appartenaient à la plus vieille tradition romaine. Vénus Ericine, venue de Sicile, il s'agit vraisemblablement d'une Astarté punique, et qui peut-être auparavant avait été une Aphrodite grecque, conformément à l'évolution historique en Sicile, en tout cas cette Vénus Ericine, étrangère, était devenue une déesse romaine et assumait une partie des responsabilités de la Vénus romaine. Et comme les autres divinités du territoire romain que nous avons vu, elle recevait aussi un temple à Rome. les fonctions qu'elle reprenait aux côtés de Jupiter sont en effet celles de Vénus. Vénus, qui est une de ces divinités qu'on peut appeler abstraites au départ, puisqu'elle incarnait le pouvoir contraignant, et en l'occurrence le pouvoir contraignant de Jupiter, de la même manière que Fidès incarnait toujours au même endroit, au Capitole, à côté du temple de Jupiter, la bonne foi, la loyauté de la bonne souveraineté. Et en tant que telle, désormais, elle assumait les fonctions de la Vénus capitoline ancienne qui était là. On ne sait pas si elle avait un autel ou quoi, une chapelle. En tout cas, lors des Vinalia, on offrait le premier vin, le vin nouveau, par une grande libation ce jour-là à Jupiter. Et c'est Vénus qui était impliquée aussi. Et maintenant, cela se fait devant le temple de Vénus Éricine. Vous voyez qu'elle est totalement romanisée à Rome. Plus tard, il y aura un deuxième temple au Quirinal qui semble avoir eu des relations plus directes avec l'Aphrodite grecque ou sicilienne. Et Rome faisait part dans ses célébrations d'une sorte de ligue de cités qui était restée en Sicile fidèle à Rome pendant les guerres puniques. Ces cités reçurent le droit, comme ce texte vous le montre, de la chrysophorie, c'est-à-dire le droit de porter pendant les processions les bijoux de la déesse. On dirait que, en quelque sorte, le temple du mont Eryx devient comme une capitale de la Sicile autour desquelles se rangent les amis de Rome. Tout cela à l'époque républicaine où il y avait encore des conflits. La Sicile était un enjeu central des guerres puniques que les Carthaginois, comme les Romains, désiraient posséder. Et une fois de plus, les dieux intervinrent dans cette lutte. Au IVe siècle, dans le contexte d'un sacrilège qui éprouvait l'armée carthaginoise par des pestes et des défaites en Sicile, les autorités puniques avaient déjà décidé d'instituer à Carthage un culte de Déméter et de Perséphonée qui serait célébré à la grecque et confié à des personnes grecques établies à Carthage. Il y avait eu un haïmer, un sacrilège, dans un temple de Déméter et de Perséphone. Et depuis lors, les pauvres Carthaginois eurent beaucoup d'épreuves à surmonter. Et donc, on crée un culte à la grecque, à Carthage, en l'honneur des deux déesses. Ce culte, entre parenthèses, deviendra plus tard le culte des Céréres, les deux Cérès, à la romaine, on appelle cela ainsi, qui est une obligation religieuse de Carthage, punique, reprise par la colonie romaine de Carthage après un siècle de disparition pure et simple de Carthage. Mais encore au début de notre ère, ils reprennent cette obligation et ce sera un des cultes importants de la colonie. Et donc ça remonte à cette histoire du IVe siècle avant notre ère. Et cet emprunt d'un culte à la Sicile, qui sera célébré selon le rite grec à Carthage, est très proche de ce qui se passa à Rome à une date inconnue du IIIe siècle avant notre ère. À la fin de ce siècle, il existait en effet à Rome des rites de Cérès selon le rite grec qui étaient célébrés à la grecque par les matrones romaines en l'honneur de Cérès et de Proserpine, sa fille. Ce culte était un développement de celui qui, le vieux culte installé sur l'Aventin, qui s'adressait à Cérès, Libère et Libéra, dans ce temple de l'Aventin. Désormais, le culte était triple. Le vieux culte de Cérès, avec son flamen Cérialis, flamine de Cérès, un homme, continuait, tout comme celui de la triade de l'Aventin, Cérès, Libère, Libéra. Ça fait déjà deux cultes qui étaient célébrés à cet endroit. Et puis, le culte de Cérès et de Proserpine, le troisième, avait en outre donc les matrones qui étaient chargées de ce culte, mais surtout des prêtresses publiques, des femmes venues de pays grecs, de Naples en général ou de Vélia. Mais pour rendre encore plus précise la relation avec la Sicile, un oracle sibyllin de 133 avant notre ère décida de célébrer un culte public romain à Henna, en Sicile, dans la province de Caltanissetta, qui était considéré comme le lieu où résidait la Cérès la plus ancienne. Bien qu'il n'y eût plus à Rome un temple, bien qu'il y eût à Rome un temple de Cérès très beau et très somptueux, souligne Cicéron, des prêtres du peuple romain, membres du collège des Decemvirs, toujours nos Decemvirs, puisqu'il s'agit d'un oracle sibyllin, firent route jusqu'à Henna. Et les Decemvirs célèbrent donc un rite urbain à Henna. Et nous ignorons, évidemment, c'est tout ce que nous savons, nous ne savons pas si ce rite était désormais permanent ou, comme le texte de Cicéron le semble suggérer, exceptionnel. Dans les deux cas, en tout cas, il s'agit de nouveau d'un rite urbain célébré dans un lieu avec lequel le peuple romain revendique des relations privilégiées. Un dernier exemple, de ce type est également célèbre. C'est celui, encore une fois, de la Mater Magna de Pessinonte, son lieu d'origine, qui fut transféré en 204 à Rome, dans le contexte de la recherche d'alliances en Méditerranée orientale par Rome, et aussi, du point de vue religieux, d'après l'oracle, pour gagner définitivement la guerre et bouter Hannibal hors d'Italie. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce transfert qui sont amplement connus. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'en décrivant les coutumes de la Galatie, une zone de l'Anatolie actuelle, en Turquie, Cicéron souligne que dans les guerres les plus importantes, Cicéron souligne que les oracles de la Grande Mère furent tellement révérés par nos ancêtres que dans les guerres les plus importantes et les plus dangereuses, nos généraux offraient des vœux à cette déesse. Et quoique Rome et l'Italie fussent remplis de temples, ils allaient à Pessinonte, même les acquitter sur le plus auguste de ses autels. Faire des vœux, ça veut dire faire un contrat avec une divinité. Et quand un magistrat romain, vous savez maintenant que c'est un consul qui quitte Rome pour la guerre ou un proconsul qui fait la même chose dans sa province, eh bien, quand il fait un vœu, il fait un contrat avec une divinité suivant le droit sacré romain. Eh bien, dans certains cas, ces généraux le faisaient à Pessinonte, en Galatie, près de ce temple, temple auquel Rome est liée depuis 204 avant notre ère. Et elle a, bien sûr, aussi un temple sur le Palatin. Et à la suite de la description du rite célébré par les Decemvirs à Henna, que nous avons déjà vu, Valère Maxime mentionne que, bien souvent, en l'honneur de la mère des dieux, nos généraux, après des victoires, allèrent à Pessinonte pour s'acquitter des vœux qu'ils lui avaient faits. Donc c'est la même tradition qui revient, et vous voyez que c'est de nouveau une pratique du même type que celle que nous avons vue en Sicile, où il y a aussi un lieu de culte qui attire en quelque sorte la reconnaissance des Romains. Ces visites à Pessinonte que faisaient les gouverneurs ou généraux romains pendant des guerres ou quand ils étaient de passage paraissent établir donc un lieu local avec le culte et la déesse transportée à Rome. Dans ce cas encore, les sacrifices et les vœux des généraux devaient avoir une valeur légale à Rome. Ce sont des rites romains célébrés dans un lieu de culte très lointain en Galatie et sans doute, ces rites impliquent-ils l'assimilation de la scène rituelle à une portion de l'ager romanus? Parce que là aussi, on peut rêver, évidemment, comment est-ce que, c'est ce que je me demande toujours, comment ça se passait quand quelqu'un qui a l'imperium du peuple romain et qui parle au nom du peuple romain, en tant que magistrat du peuple romain, quand il fait un vœu ou quand il acquitte un vœu ou quand il consacre quelque chose, comment peut-il le faire? Il peut le faire, une fois de plus, à titre privé, il n'y a aucun problème. Mais dans des cas comme cela, il s'agit de vœux officiels, comme le font les généraux commandants des armées. C'est un thème, si vous avez lu un peu de latin, ultra courant. Comment le fait-il? Donc, manifestement, dans tous ces cas, il devait y avoir une mise en place d'un dispositif qui permettait de faire des dédicaces des consécrations, et un sacrifice est une consécration, puisqu'il consacre une victime à une divinité, même s'il y a des principes locaux qu'on respecte, eh bien, il fallait que cette dédicace soit légalement valable pour pouvoir être faite au nom du peuple romain. Et moi, je suis convaincu, après avoir feuilleté, mâché tous ces textes sur les hospices à l'étranger, sur les sacrifices, les rites célébrés en Italie ou à l'extérieur, que dans ce cas-là, les magistrats romains, eh bien, devaient, par une cérémonie que pour notre plus grand malheur, nous ne pouvons qu'imaginer, créer un espace apte à cela, créer un espace qu'on appelait pour la cérémonie quelque chose d'équivalent à l'Ager Romanus, et ainsi les actes trouvaient toute leur légitimité. Voilà, je vous remercie. Thank you.